Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et cet été, c'est tous les dimanches à 16h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Doche. Bonjour Laetitia Doche.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Laetitia Doche, vous êtes comédienne, dramaturge, metteuse en scène. Ben oui, vous avez écrit des spectacles, non?
Oui, c'est vrai.
C'est vrai?
Vous savez, j'ai du mal à dire comédienne, j'aime bien actrice, mais vous, c'est pas du tout un reproche.
Ah bon, alors vous êtes actrice?
Et auteur.
Auteur.
J'aime bien aussi.
D'accord.
Donc... Mais bon, ça va, c'est des termes, vraiment, j'étais flattée par dramaturge, j'ai bien aimé.
Non, mais alors auteur et comédienne, actrice... Et ça va pour vous présenter. Ça vous suffit?
Oui, ça suffit, mais je vous remercie.
En ce moment, vous êtes à l'affiche au cinéma d'Une passion simple.
Oui.
De Daniel Arbide. Très beau film.
Oui, puis c'est l'histoire d'une auteure, justement. C'est l'histoire d'Annie Ernaux qu'elle a racontée dans son livre Passion simple. C'est une adaptation de son livre.
Et vous jouez le rôle de Annie Ernaux?
Ouais. J'ai de la chance, hein?
Ah, vous avez de la chance. Ça n'a pas dû être facile. Si?
Bah, tout était marqué dans le livre. Tout ce qu'il fallait faire, il fallait suivre le mode d'emploi.
C'est un très beau film. Laetitia Doche, vous avez choisi comme journée particulière un jour de l'été 1986.
Oui.
Vous aviez 6 ans et vous aviez une pie. Et ce jour-là, Laetitia Doche, vous avez réussi et prouvé que votre pie pouvait parler.
Filou, il est quoi, Filou ?
Filou !
Oui, Filou, il est Filou, mais Filou, il est quoi ? Filou, il est quoi ?
Filou.
Filou, tu descends ? Je vais prendre le balai.
On l'a pris parce que il était blessé. On l'a soigné. Bon ben, maintenant il vole un peu, mais il vole pas tellement. Ris
bien. C'est comme un merde. Allez. Oh, t'as pas le droit.
Même moi, je croyais pas. Tu non, c'est pas possible ça. Elle me disait qu'il disait filou. Bon, je dis non, c'est pas vrai. Hein.
C'est gentil.
Ah,
il est fou. Il est fou. Mon Dieu.
Alors vous avez des cicatrices partout ?
Partout. Mes mains, surtout mes mains, mes pieds, mes chevilles. Surtout l'été, oui.
Pourquoi vous le gardez alors ?
Parce que je l'aime bien. C'est à moi, c'est mon filou à moi. Aïe, aïe. T'es vilain.
Il paraît que c'est nuisible. Il paraît, hein. Mais si tout le monde parlait à ces bêtes comme nous on parle, il serait pas nuisible.
Laetitia Doche, c'était une archive de 1995 du JT de France 3, Côte d'Opale. Donc c'est une pie, Filou. Et vous, votre pie, elle s'appelait comment ?
Ça s'appelait Mammouth.
C'est une grosse pie ?
Non, c'était vraiment une pie normale. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelée comme ça. Mon grand-père était ornithologue, j'habitais avec lui. Et puis, il recueillait lui aussi souvent des oiseaux dans les parcs qui étaient blessés. Et donc cette pie est arrivée. Et ça faisait un an et demi qu'elle était là déjà. Et puis, moi, j'étais une enfant très solitaire. Je parlais pas trop, j'étais très intimidée par les grands. J'étais très secrète. Et je suis allée à côté de sa volière. Elle avait une volière à l'extérieur, sur le balcon. Et ce jour-là, je suis allée toquer à sa volière, toc, 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 comme je faisais d'habitude. J'aimais bien aller les voir. Et ce jour-là, alors il faut savoir, attendez, pour bien comprendre, ouais. Il faut savoir que la fenêtre qui donnait dans la cuisine était souvent ouverte et il y avait le téléphone à côté. Et donc Mammouth entendait beaucoup les gens au téléphone. Et donc j'ai toqué à sa volière et Mammouth a fait « Allô Mammouth, ça va bien, ça va bien, ça va bien !» Ce qui en dit long sur ma famille parce qu'il disait tout le temps « ça va bien, ça va bien,
ça va bien ». Alors
que
ça allait très mal.
Bah que ça allait comme, ouais bon, avec des hauts et des bas. Et j'ai dit « mais elle parle ?» Puis c'était magique. Et donc j'allais voir mon grand-père, je dis « je crois que la pie parle ». C'est quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?» Donc pendant tout un moment, personne ne m'a cru et ça a été mon secret.
Ah, elle vous parlait qu'à vous, la pie ?
Oui, c'est possible, je sais pas où. Alors les autres, peut-être, ne passaient pas assez de temps avec elle. Parce que moi, j'étais souvent sur le balcon, pas loin de la pie. C'était pas une pie violente, c'est marrant cette histoire de Philou qui... Elle adorait être sur les cheveux, sur la tête.
Votre pie ?
Mammouth, ouais.
Elle montait sur votre tête ? Vous ouvriez la volière ?
Oui, quand on déjeunait en famille, elle venait avec nous.
À table ?
À table, ouais.
Et il y avait plein d'animaux comme ça chez vous ? D'autres oiseaux, d'autres animaux ?
Oui, il y en avait beaucoup en vivant. Il y en avait des vivants et des morts.
Oui, parce que vous avez un oncle qui était taxidermiste, c'est ça ?
Oui, mais je pense qu'il est devenu taxidermiste après, parce qu'on a été élevés avec beaucoup de taxidermie autour de nous. Moi, dans ma chambre, j'avais un renard avec la gueule ouverte, des choses comme ça.
Qui vous regardait dormir.
C'est bizarre d'ailleurs, comment... La langue, vous savez, c'est faux, c'est en plastique. Enfin... Oui, du coup, il y avait des coqs de bruyère, des faisans, des sangliers, beaucoup de trucs de chasse, en fait. Comment on appelle ça ? Des trophées.
Ouais.
On appelle ça des trophées, c'est quand même un terme énorme. Et puis des animaux vivants, des chinchillas, des chiens, effectivement beaucoup d'oiseaux de passage, des perruches, plusieurs pies, Big Ben.
Big Ben.
Il y a eu même un fennec, moi je ne l'ai pas connu, mais je sais qu'il y a eu un fennec dans l'appartement à un moment.
Mais vous, votre ami, c'était la pie, c'était Mammouth la pie.
Oui, oui, oui. Enfin, c'était, disons que ce lien avec le langage quand même, oh, c'était quand même ça... Je revenais tout le temps après, tout le temps, je revenais toquer de la même façon, voir si elle allait dire « Allô Mammouth, ça va bien, ça va bien, ça va bien. »
Et à chaque fois, elle le disait ?
Oh non, pas tout le temps. Des fois, je dis « Bon, bah, elle parle plus. » Donc, je lui imitais « Allô Mammouth, ça va bien, ça va bien, ça va bien. » Parce qu'elle avait une voix un peu comme ça, un peu comme...
Comme Philou.
Oui, un peu comme Philou, ouais. Un peu plus grave.
Et un jour, elle s'est arrêtée de parler ?
Non, en fait, les gens ont découvert qu'elle parlait au bout d'un moment. Du coup, mais c'était une pique, même à la campagne, on laissait dehors, qui faisait sa vie. Un jour, elle est partie.
Ah, vous étiez triste ?
Non, j'étais contente pour elle.
Et qu'est-ce qu'a dit votre grand-père, l'ornithologue ?
Il l'a cherchée partout. Elle doit être dans les arbres, elle doit être au fond de la cour. On va regarder, elle doit être à côté du ruisseau, je suis sûre qu'elle est là-bas.
Il n'est jamais retrouvée ?
Non, jamais. Peut-être qu'elle est allée avec d'autres pies. Mais en tout cas, à chaque fois que je vois des pies, c'est vraiment un très bel oiseau, hein.
Blanc, avec une tache blanche, c'est ça ? Et le corps noir ?
Oui, mais il y a aussi du bleu foncé. Et oui, et puis surtout, j'ai aussi découvert que ça avait des oreilles. C'est complètement idiot, bien sûr que ça a des oreilles, un oiseau, une pie. Mais
moi, j'y avais jamais pensé, en fait.
J'avais jamais vu. Mais non. Mon grand-père m'a montré ça. C'est vraiment des très petites oreilles. Et en rebroussant les plumes sur le haut de la tête, on les voit.
Ah, c'est génial. C'est comme ça, donc, Laetitia, donc, au cours de cet été 1986, c'est oui. Comme ça que vous avez commencé à faire parler votre pie, Mammouth, en 1986.
Je ne l'ai pas fait parler, hein. C'est elle qui s'est mise à parler. Hein.
Oui, en fait, elle s'est mise à vous parler.
Oui.
En 1986, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on pouvait entendre comme musique ?
Il y avait Stéphanie de Monaco.
Comme un ouragan ?
Oui, il y avait Elsa, il y avait... Moi, je suis désolée, j'étais petite, hein, donc j'avais des goûts de petite. Je pense que c'est ces années-là, ouais. Bah, Madonna, à part ça, et peut-être Whitney Houston, déjà, un petit peu.
Ouais. Et puis, il y avait Prince. You don't need experience. Laetitia Deutsch, vous connaissez cette chanson par cœur, vous dansez, et je ne savais pas que Prince aimait toutes les femmes.
C'est ce qu'il dit dans sa chanson, en gros.
Et vous y croyez?
je pense qu'il doit en aimer beaucoup, mais il doit quand même être un petit peu sélectif, à mon avis.
On en saura peut-être plus.
Mais il est décédé, vous savez?
Bah oui, je sais, ça, bon, je sais. Bon, ça, je sais. Alors, on continue.
Ah, c'est non, la... je passe.
Ah non, je passe, exactement. C'est la journée particulière de Laetitia Deutsch. L'été 86, donc, vous faisiez parler votre pie, Mammouth. Et 30 ans plus tard, l'été 2016, le 31 août exactement, pour être précise, la veille de votre anniversaire, vous étiez dans une toute petite ville du Colorado, en train de tourner un western.
Oui.
Et c'était une drôle d'atmosphère.
Oui. On était à Sawash, deux rues dans Sawash, d'un côté des éleveurs de marijuana avec des flingues parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre l'argent à la banque, et de l'autre des pro-Trump hyper forts. Et on dormait avec les acteurs dans une maison. On a commencé à faire les mêmes rêves, les mêmes cauchemars. Des cauchemars où moi j'étais beaucoup maltraitée, poussée au sol par des forces de police ou des choses comme ça. Il y avait des viols. Parmi les gens, j'entendais en fait les autres acteurs crier la nuit quand même. C'était pas pour déconner. On dit pas déconner à la radio, mais bon voilà, on s'est compris. Des rêves d'oppression, de viol, de mélange de peau, d'échange d'enfants contre de la nourriture ou des choses comme ça. Et ça montait, moi j'étais obligée de dormir au bout d'un moment avec la lumière allumée, je mettais de l'encens et tout. Donc finalement on a compris en allant au musée que c'était peut-être, il restait une trace d'expérience qui avait été faite sur les Indiens dans cette ville à ce moment-là.
Et que ce serait pour ça que vous faisiez tous des cauchemars.
Oui, des expériences qui ressemblaient à ce qu'on vivait dans les rêves en fait.
Ouais, c'est fou.
Et c'était une ville où les cerfs, les animaux cerfs vivaient dans la ville parce qu'ils dormaient dans les jardins, on marchait à côté d'eux. Dans la rue, enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Et puis, je ne sais pas pourquoi, en marchant, j'allais beaucoup marcher quand je ne tournais pas ce western. Et j'étais à cheval aussi dans le western.
Ouais, c'est ça.
Avec ce cheval, je me sentais bien. On pouvait comme tout lui dire, le cheval avec lequel je travaillais là-bas, qui s'appelait Ranger. Il y avait un truc de douceur quand j'étais avec, qui était... J'étais bonne cavalière sans avoir trop bossé.
Ouais.
De naturel, quoi. Où tout d'un coup, ça me calmait et je pouvais plus réfléchir sur le monde autour.
Et c'est comme ça donc que vous est venue l'idée de votre spectacle,
oui.
Kate, tentative d'un duo.
Tentative de duo avec un cheval.
Avec un cheval. Le spectacle a été créé en 2018.
Ouais.
Je vous propose qu'on écoute le tout début.
Tu sais, j'ai commencé à écrire ce spectacle parce que je voulais parler de maintenant, du chaos de maintenant, et que ce soit pas trop triste. Parce que là, les gens sont très, très perdus, tu vois. Moi, je suis très, très perdue. À la fin de la journée, j'ai l'impression de l'avoir passée à l'inverse de comment j'aurais aimé la passer le matin. On se parle dans les bars, mais on se dit rien, rien du tout. Et quand je regarde les gens autour de moi, tout le monde s'agite, tu vois, fait des trucs. Mais en fait... C'est très très rare que les joueurs soient vraiment convaincus de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent. En fait, les gens, ils ont l'air de se sentir de plus en plus seuls, j'ai l'impression. Inutiles. Et avec les informations, en plus, ça devient carrément inquiétant. Il y a une ambiance fin de race.
Ambiance fin de race, vous êtes sur France Inter.
En tout cas, ça c'était le tout début de votre spectacle, donc Hate. Et vous en aviez gros sur le cœur. Et vous avez décidé de le dire au cheval qui était avec vous. Alors ce cheval, lui, s'appelait Corazon.
Oui.
Qui était ce cheval?
Alors ce cheval, c'était un miracle. Bon, c'est un cheval en fait qui travaille avec dans l'écurie, enfin... de Judith et Judith Chanju, qui c'est une écurie en Suisse à Gimel. Et en fait, c'est quelqu'un qui va travailler à la relation à l'animal de plein de manières différentes. Donc, on peut pas du tout appeler du dressage, qui est plus comment créer une relation à travers des jeux. Et il y a beaucoup de jeux qu'on fait ensemble et qui deviennent après le répertoire un peu du spectacle. Il y a beaucoup de choses de jeux qu'elle avait créées que j'ai repris dans le spectacle.
C'est ça, parce que dans le spectacle, on vous voit jouer avec le cheval. C'est-à-dire que le cheval, vous avez essayé...
Mais il joue avec moi surtout.
C'est ça.
Il me fait beaucoup de blagues.
Comme quoi ?
Bah oui, c'est une complicité qui naît. Alors après, c'est moi qui dirige, bien sûr, comme si j'étais metteuse en scène, en fait.
Ouais, bien sûr.
Il y a plein de propositions qui sont faites, par exemple avec des objets, avec une tente qu'on déplie, une tente quechua, peu importe. Et le cheval, Corazon, va toujours réagir de façon propre. On va le voir faire des choix aussi, énormément. Ça, c'est génial. On le voit tout d'un coup qu'il décide de pas venir, de venir, de s'arrêter. Parfois, pendant le spectacle, à un moment, il venait, je sais pas, mettre ses naseaux sous mon bras. Mais comme ça, il y avait une complicité qui était créée. Ça, c'est quand même un truc d'arriver à ça, franchement. C'était génial.
C'était génial et vous deviez improviser avec Corazon.
Oui, alors attendez. Alors, faut que je précise parce que, ouais. Que c'est un spectacle qui est écrit, que j'ai écrit pendant 2 ans et qui est réécrit tous les soirs avec Corazon. Selon
ses humeurs.
Même ce qu'il propose et aussi ce qu'il dégage. Parce que parfois, il fait vraiment des têtes. Moi, je lui donne une, enfin, je lui donne une voix. J'essaie de traduire ce que je lis de ses états en voix. En plus de raconter notre histoire. C'est quand même une femme qui décide de quitter le monde des humains pour vivre une sorte d'amour avec un cheval.
Oui.
Et donc c'est ça l'histoire, c'est ça la fiction. Et en vrai, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie relation qui se crée entre moi et Corazon au moment où on le joue, cette histoire. On le joue toutes les deux.
Et pourquoi vous l'avez appelé Hate, ce spectacle ? Vous vouliez parler de la haine ?
Il y a plusieurs raisons. Déjà, je trouvais qu'il y avait quelque chose de romantique dans l'idée de travailler avec un cheval visuellement. Puis j'avais travaillé sûrement sur la nudité, il y avait quelque chose de romantique.
Oui, parce que vous êtes nue face au cheval.
Oui, oui.
Et ça, je me demandais pourquoi.
Bon... C'était ce qui paraissait plus logique, en fait. Et lui, il n'a pas de selle, il n'a rien. Il a juste une toute petite cordelette autour du cou dont on sert de temps en temps, mais vraiment rien. Il y a un truc de retour à la nature, peut-être, aussi.
Ouais.
Chez cette femme qui décide de quitter le monde des humains pour aller vivre avec un cheval.
Et ça ne se passe pas forcément bien.
Bah, ça se passe, oui. C'est peut-être la leçon à retenir, quand même.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Laetitia Doge, dans ce spectacle, vous interrogez aussi la place de l'animal dans nos sociétés.
Oui.
Et de notre relation à l'animal, l'animal trophée dont vous parliez justement au début de l'émission,
l'animal. Oui, l'animal trophée et même l'animal comme solution de pureté, ouais. Les deux. Et c'est nous, quel rapport on arrive à créer avec eux, évidemment, comment on les traite, ouais. C'est évident.
Et là, le cheval vous répond. Il y a un moment où le cheval vous dit ce qu'il pense de vous et, oui. Et il ne mâche pas ses mots.
Tu sais, on pourrait aussi te faire plein de petites nattes comme ça sur toute la crinière et sur la queue et puis te teindre toute la crinière en roux. Ah, ce serait trop trop joli ça. Et te dessiner sur le torse des petits cœurs, des petites têtes de mort, des petits chats. Tu vois, un peu partout comme ça. Ça t'irait trop trop bien.
Comme des tatouages.
Bah, ah, tu connais ça, les tatouages ?
Bah oui. Il y a les tatouages que vous nous faites. Pourquoi vous nous faites ça, Laetitia ?
Bah parce que, en fait, les humains, ils n'ont pas assez de finesse, d'écoute, de mémoire pour savoir à quel cheval exactement ils s'adressent. Et du coup, ils ont besoin de te mettre un numéro au-dessus. Comme ça, c'est beaucoup plus.
Moi, je crois que c'est parce que vous avez besoin de nous posséder comme des objets.
Oui.
Je crois que tu as besoin de m'avoir comme un pin's à ta veste pour me posséder.
Oui.
T'es un monstre, Laetitia.
Vous l'avez choisi, ce mot monstre, Laetitia Doge, quand
c'est
le
drôle, je l'ai improvisé ce soir-là, je dis pas d'habitude.
C'est vrai ?
Je crois pas, non.
Parce que c'est vous qui faites la voix du cheval.
Oui, oui. Mais évidemment, je le dis pas à chaque fois monstre, ça c'est sûr. Mais la possession, c'est un vrai truc, hein. Que ce soit avec les animaux ou avec tout, avec les autres.
Et en ça, ce spectacle, il vous a transformé. Est-ce que vous avez compris quelque chose là-dessus en travaillant avec Corazon ?
Oui, bien sûr. Et en même temps, c'était aussi une déception. Moi, ça me donnait envie de revenir au monde des humains, pour de vrai. Même si j'adore travailler avec un animal, mais en gros, quand même, avec Corazon, j'ai découvert beaucoup de choses de moi. En fait, j'avais jamais peur sur scène avec lui.
C'est vrai ?
Ouais. Bon, il est décédé, vous savez ça ?
Ouais, je sais. J'ai vu.
Il est décédé le mois dernier. Et on a encore une date qu'on va faire avec un autre cheval. On va travailler avec un autre cheval. Et donc c'était quelqu'un, en fait ce qui était génial avec ce cheval, c'est que il était très inhibé, il voulait pas faire faux. Et donc il fallait lui donner vachement d'énergie, et là il se lâchait, il faisait des trucs de fou, et du coup c'était pour moi très beau de voir un cheval prendre de la liberté, faire des bêtises et faire des câlins quand il voulait. Enfin ça c'était quand même magnifique, mais il fallait vraiment le pousser, enfin il fallait l'encourager beaucoup, et moi c'était un rôle qui m'a beaucoup plu, ça, de faire ça. Après c'est pas un rapport d'égalité.
Ben non.
C'est avec les humains qu'on peut avoir des rapports d'égalité. Bon, après, c'est difficile, parce que moi, je suis une femme et je le sens, ça, quand même. Hein. Qu'avec les hommes, c'est pas toujours facile, le rapport d'égalité. Il peut se sentir menacé par l'égalité homme-femme, je trouve. Mais je pense qu'il faut s'y atteler, quoi. Parce qu'avec les chevaux, ça marche pas. Alors là, il y a d'autres plaisirs. Hein, mais
Alors là, maintenant, on va passer au chien.
Allez, on passe au chien.
Mon meilleur ami est un chien. On peut lui parler, mais il ne vous répondra pas. Il aurait préféré avoir une femme comme amie. Une femme attentive, belle et sûre, qui travaillerait dans l'éducation nationale. Ils auraient des regards que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Et ils parleraient d'amour et de choses inouïes.
Laetitia Doche, vous avez reconnu, c'est Philippe Catherine, oui. Évidemment, mon ami, oui. Le chien. Vous êtes en train d'écrire un spectacle autour d'un chien?
Non, c'est un film.
Ah, c'est un film.
Mais c'est pas grave.
C'est pas grave, mais vous l'avez écrit?
Ouais, j'ai écrit le scénario, là. C'est fait.
C'est fait. Et c'est l'histoire de quoi?
C'est autour d'un chien. C'est le lien d'un chien avec une ville. La ville devient folle avec cette histoire de chien.
Ouais.
Ce chien, il a fait quelque chose de très mal. Il a mordu parce qu'on le caressait quand il mangeait. D'accord. Tout le monde sait qu'on ne caresse pas les chiens quand ils mangent quand même. Ce chien s'appelle Shalom. Il y a plein de personnages autour de ce chien. Il y a des pasteurs, il y a des gens de la SPA vraiment fans des chiens qui ont peut-être des pouvoirs un peu magiques. Des avocates, une mère, M-A-I-R-E, une femme qui se fait mordre et qui a sa vie qui va changer. Cette histoire avec Shalom va les transformer un peu, je crois. Il y a un enfant aussi qui est battu, qui se prend de passion pour ce chien, Joachim, des voisins. C'est passion chien dans la ville et comment aussi ça va créer beaucoup de violence dans la ville.
Alors, plus légèrement, nous on a Hugo. Hugo, l'assistant de cette émission.
Oui, il a un petit chien, était quel
hein, non. Il n'a pas de petit chien, Hugo, mais il cherche les archives pour l'émission.
Oui.
Et il vous a dégoté une archive délicieuse.
C'est vrai?
Un chien, ouais.
Ah, merci.
Une petite histoire maintenant amusante et instructrice à la fois. Monsieur Digot, un habitant de Redon, possède un chien extraordinaire. Et cet animal s'appelle Kiki. Mais c'est pas seulement pour ça qu'il est extraordinaire, c'est simplement parce qu'il sait compter.
Il ne fait pas bêtement des additions et des soustractions comme n'importe quel chien ordinaire. Kiki extrait des racines carrées et manipule les fractions. Ce n'est pas un canular. Philippe Poirot est allé à Redon. Il a interrogé Monsieur Digot, l'heureux propriétaire de cet inaudit à quatre pattes.
Il a interrogé aussi Kiki.
Ce chien-là était destiné à la fourrière. Nous nous sommes décidés tout de même à adopter cette petite bête. Nous nous sommes aperçus que ce chien-là observait. J'ai donc fait une chose, je l'ai pris près de moi. Je lui ai dit Kiki 1, il a aboyé une fois. Je lui ai dit 2, etc. Jusqu'à 10, il a aboyé 10 fois. Du jour où il a commencé à faire de petites opérations, il en a fait des grandes sans que je lui apprenne.
Quel âge a votre chien, monsieur Dicot?
Eh bien, écoutez, ça n'est pas difficile, il va vous répondre lui-même.
Tu vas dire au monsieur quel âge que tu as. Onze mois.
Eh bien, Kiki sait faire des additions, des soustractions, des multiplications, mais vous me disiez tout à l'heure qu'il sait également faire des fractions.
Oui, il sait faire des fractions. Du reste, il y a une chose très simple, posez-lui donc une question.
Ah, une question, eh bien, disons par exemple 5 cinquièmes plus 15 cinquièmes.
5 cinquièmes plus 15 cinquièmes, tu es gentil, compte. Bien, c'est très bien, tu as raison. Racine carrée de 4.
Vous êtes perplexe, Laetitia Doche.
Oui, je suis perplexe en plus parce que je vais vous raconter une histoire un peu bizarre tout à l'heure et j'ai peur qu'on me croie pas. Et puis que moi je le crois pas, ce monsieur. Mais par contre, ce que je trouve trop beau, c'est Je trouve moins, enfin, que le chien puisse compter, moi j'y crois à fond, enfin il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est la volonté de communiquer quand même du chien.
Ouais.
Le chien qui veut bien montrer à 100 mètres qu'il sait compter, parce qu'il pourrait s'en foutre, il pourrait compter et s'en foutre.
Oui, lui dire j'ai autre chose à faire.
Ouais. Et bon, c'est des manières qu'il trouve pour communiquer. Après, si ça se trouve, il fait faire plein de... tous les jours, des additions nouvelles. Bon, je trouve ça très, très marrant, hein.
Cette chose m'étonne, mais les choses qu'elles disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so. I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends. But I'm wising up to them. You're making friends with the fireflies. You know when they die, their light stays alive. And the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Appelez pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean.
Jusqu'à 17h sur France Inter, c'est la journée particulière de l'actrice Laetitia Doche. L'été 86, donc alors que vous étiez enfant, une enfant silencieuse et solitaire, vous aviez appris à parler à votre pie, qui était votre meilleure amie imaginaire.
Pardon, je dirais pas appris à parler, elle a juste parlé.
Alors elle vous a parlé ce jour-là. Et aujourd'hui, Laetitia Doche, ce sont les arbres que vous voulez nous faire entendre.
Ouais.
Ouais.
Quel sujet, hein.
Vous avez beaucoup lu là-dessus, je crois.
Ah oh oui, mais... Donc j'ai travaillé avec Corazon, avec donc un cheval. Mais quand même, les végétaux, c'est quelque chose qui m'a toujours semblé hors de moi. Hors du monde, enfin, pas dans le même monde. Je sais pas, pas réel, c'est très bizarre cette sensation. Et je voulais lutter contre cette sensation. En plus, on a vraiment besoin d'apprendre des choses là-dessus, de se sentir qu'on est du même monde, parce que c'est vrai, et qu'on est interdépendant, et c'est vrai.
Justement, votre idée, Laetitia Doche, ça a été de faire une radio. Une radio où on entend les arbres parler. C'est une antenne libre où les arbres appellent pour parler de leurs problèmes. Et vous avez appelé cette radio Radio Arbre. C'est ça votre
idée ?
Oui,
c'est ça. En fait, je trouvais super que les arbres se réunissent ensemble. C'est venu pendant le confinement, donc on était tous un peu comme des arbres, si vous voulez. Les arbres se réunissent ensemble et parlent de leurs soucis. Et sont peut-être aussi dans la résistance. Et puis on découvre aussi des soucis un peu techniques, on découvre peut-être comment ils fonctionnent. On peut parler aussi du réchauffement climatique, des conséquences que ça a sur eux, de comment ils sont traités par les humains. Et le fait de pouvoir parler de tout ça, bah je trouvais ça génial. Enfin, ça me plaisait beaucoup, j'aimerais bien écouter ça à la radio.
Et ben alors, c'est ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour la radio, vous l'avez fait sur plusieurs radios et sur France Culture, entre autres.
Oui.
Et vous êtes celle qui écoute les arbres, vous animez donc cette libre antenne où les arbres peuvent appeler.
Oui, je joue un arbre qui écoute les autres arbres, un marronnier d'Inde, selon l'endroit où ça dépend.
Et vous leur faites toujours des bizarbres, oui. À la fin. On écoute un appel que vous avez reçu il y a quelques jours.
Oui.
C'était une radio arbre qui se passait dans une cour,
oui.
La cour des Beaux-Arts de Paris.
Oui, oui.
Vous étiez installée dans le jardin. Et là, il y a une petite marguerite qui vous a appelé.
Et je crois que nous avons un nouvel auditeur en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes qui ?
Je suis une petite marguerite dans un jardin.
Ah bah, très très enchantée.
Enchantée. Je ne saurais pas vous dire où, je n'ai pas encore éclos. Ah, je vais éclore ce soir.
Ah, vous allez éclore ce soir ?
Oui, j'ai hâte. C'est ma première fois. Enfin, j'imagine que ça arrive une fois, mais voilà.
C'est-à-dire que vous voulez nous faire le cadeau de partager ce moment avec tous les arbres francophones qui nous écoutent, c'est ça ?
C'est ça. Ça devrait arriver d'une minute à l'autre.
D'accord, bah on attend.
Oui.
Et sinon, tout va bien au niveau des voisines, les autres marguerites, ça va ?
Ah, elles ont déjà éclos, ah. La dernière. C'est pour ça que j'ai encore plus hâte, j'ai envie de les rejoindre, elles me racontent tout, mais moi je vois rien.
J'imagine que c'est un moment quand même qui doit... Vous devez avoir plein d'attentes et plein de peurs aussi, les deux, non ?
Énormément. Ça va être un grand pas, alors ça me terrifie un peu, mais pour l'instant je suis neutre, j'attends que ça arrive.
Elle est délicieuse, cette petite marguerite, et un peu plus tard, elle vous rappellera pour vous dire qu'elle a le courage d'éclore. C'est ça que j'ai entendu, moi,
oui,
Laetitia Doche.
C'est vrai, à un moment, elle a un doute.
Ouais.
Puis après, elle éclot. Elle, c'est donc... Radio Arbre, il y a des gens qui appellent vraiment en direct, dont je ne sais pas du tout de quoi ils vont parler. Il y a des personnes qui nous écrivent par mail 10 jours avant, avec qui on échange, et je sais un peu de quoi ils vont parler. Il y a des gens qui sont vraiment prévus, et elle fait partie des gens prévus, elle s'appelle Joséphine. Et je l'ai rencontrée en fait par Xavier Delaporte, qui voulait nous faire... parce qu'elle parle aux plantes en fait.
Elle parle aux plantes, dans la
vie.
Elle
les écoute, enfin, on dit toujours elle parle aux plantes, mais en fait elle les écoute. Elle fait ça depuis très petite. Et il y a même une émission sur elle, sur France Culture. Et elle a cette sensibilité, elle dit « les plantes sont bavardes », j'hallucine. Donc, peu importe que ce soit vrai ou pas, ce qui est important, je trouve, c'est qu'elle s'ouvre à cette sensibilité et qu'elle reçoit des choses, après je ne sais pas d'où ça vient. Son rapport aux végétaux est différent de plein de gens.
Mais ce que vous voulez quand même avec Radio Arbre, c'est ouvrir notre regard, justement. C'est à la fois qu'on comprenne des choses et qu'on puisse entendre aussi.
Et qu'on puisse... En fait, moi je suis actrice à la base, je viens du jeu. Et par le jeu, je rentre dans la peau de quelqu'un d'autre. Je comprends. Déjà, je prépare. Et en plus, après, en faisant, en expérimentant, je sens des choses que j'avais même pas prévues que je sentirais. Et donc, je pense que par le jeu, on peut faire grandir sa conscience. Je pense que pour les gens qui y jouent, pour ceux qui écoutent, pour moi, tout le monde peut faire grandir sa conscience en essayant de se mettre à la place d'eux. Voilà. Donc, oui, ça m'est arrivé. Plutôt en préparant, d'ailleurs. Et puis ça m'arrive tout le temps, puisque j'essaie de me mettre dans le tronc de l'arbre en face de moi. Je suis là pour le comprendre, alors je lui pose des questions. Et puis c'est pas n'importe quel arbre, c'est toujours des arbres différents. Un sapin de Noël coupé, c'est pas la même chose qu'un marronnier d'Inde. En tout cas, ça donne des discussions différentes, ça c'est sûr.
Alors moi j'ai entendu sur votre antenne de Radio Arbre, Laetitia Doche, un cactus éjaculateur,
oui,
précoce.
Bah oui, il fleurit trop tôt. Et donc les chauves-souris sont pas encore arrivées... Et donc, il ne peut pas se reproduire. Il n'y a que des mâles autour de lui. Et donc, les chauves-souris sont hyper importantes parce qu'il faut qu'elles envoient son pollen. Parce que les chauves-souris se roulent dans son pollen. Elles le mordent, elles le griffent. Mais il aime bien ça.
Oui, il aime ça. Et il en est privé.
Et oui, mais ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, effectivement, les chauves-souris se décalent.
Mmh.
Et donc, les cactus mâles ne peuvent pas se reproduire. C'est tiré d'un vrai truc, ce truc-là.
Il y a aussi un platane qui desquame dans une cour de récré, et on a tous l'image de ce platane dans sa cour de récré.
Vrai.
C'est une image qui marche. On l'a,
ouais,
tous vu.
Ouais,
ce,
ouais,
platane qui va mal.
Oui, c'est vrai, et qui en plus c'est vrai qu'il est stigmatisé par les humains.
Par les humains.
Mais en fait, c'est marrant, les arbres parlent beaucoup des souffrances que le regard des humains leur donne. Je ne sais pas si ça parle à la partie humaine des gens qui appellent ou à la partie arbre.
Vous, vous avez une partie arbre en vous?
Quand je joue l'arbre, j'espère bien que j'ai une partie arbre.
Mais quand vous jouez pas?
Non, mais en fait, mais je peux raconter?
Ouais.
Donc je galérais avec cette histoire d'arbre. Finalement, je faisais ces émissions pour rentrer dedans et je n'y arrivais pas et je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Et puis,
ouais.
Le 29 mai, je fais une émission Radio Arbre.
Ouais.
Et à côté, j'ai Renaud Ruhlmann qui donc fait de la... je vais encore dire fait de la musique avec les plantes, ce qui est faux, mais des électrodes sur des plantes. Et c'est une machine qui transforme leurs vibrations, la vibration électrique des plantes, en musique.
Alors moi, il se trouve, Laetitia Doche, que j'ai trouvé... Alors, ce n'est pas la musique de Renaud Ruhlmann, mais c'est un autre homme qui a travaillé aussi là-dessus,
oui.
Et qui s'appelle Jean Toby.
Oui.
Vous le connaissez?
Bah, de nom, mais...
De nom. Alors, il avait été interviewé à la télévision suisse pour raconter cette histoire-là. Je vous le fais d'abord écouter, et après, on écoutera la musique de l'Aloe Vera.
Très bien.
Le mystérieux chant de ce platane... Enregistré ce matin à l'aide de ce dispositif.
On va écouter, transcoder l'activité électrique de surface d'un arbre. Donc pour ça, on va avoir un capteur sur racine, un capteur sur feuille ou fleur, et on a un appareil un peu spécifique qui va décoder en fait la différence de polarité entre ces deux points. Donc du coup, on aura une ondulation que l'on va transcoder en son.
Toutes les plantes chantent, apprend-on ce matin avec la quinzaine de spectateurs venus assister à l'événement, mais elles pourraient faire bien plus encore, selon Jean Toby.
On n'a aucun problème technique à penser que dans la conception de l'arbre, quand il entend des choses dans l'environnement, eh bien c'est inscrit dans l'arbre. Donc on pourrait très bien réécouter tout ce qui a été inscrit dans l'arbre depuis qu'il est né. C'est une possibilité qui va, je pense, arriver d'ici 10 ou 15 ans maximum. Et donc on va aller voir des vieux arbres en ville ou ailleurs et on pourra réécouter tout ce qui s'est passé autour du pied de l'arbre. On va prendre des belles leçons d'histoire, je pense.
Alors c'était lui, Jean Toby. Hein. Il se dit lui-même pépiniériste et musiniériste.
Oui, c'est ça, c'est les termes qu'ils emploient. Ces personnes qui pratiquent la musique des plantes, soi-disant. Enfin, c'est très difficile à nommer, vous voyez.
Ouais.
Parce que toujours, on met l'humain au premier plan. Là, ce qu'on entend, c'est quand même une relation.
Une relation entre l'humain qui est en face de la plante et la plante?
Oui, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'ils mettent des électrodes sur les plantes que les plantes leur sont compréhensibles,
ouais,
aux humains. Une aloe vera, selon qu'il pleuve, selon que vous leur criez dessus, que vous vous mettez loin. Toutes les altercations, les interactions qui peuvent arriver autour de la plante vont changer la musique.
Moi, je vous fais écouter quand même un petit peu de la musique de l'aloe vera.
Oui.
Toujours enregistrée, captée en tout cas par ce Jean Toby, ce fameux Jean Toby.
Ouais.
Voilà, ça c'est la musique de l'aloe vera. Et en fait, il y a un site qui s'appelle Nature Ascend où on peut, oui, trouver la musique du framboisier, enfin les musiques, les vibrations traduites en musique qui émettent des tas de plantes. Mais si je vous ai fait écouter l'aloe vera, Laetitia Doche, c'est pas pour rien.
J'ai une épiphanie en fait. Voilà, je vais vous raconter et c'est très bizarre. Donc je ne sais pas si ce que je vais vous raconter est vrai, mais ça m'a changé mon rapport aux plantes. Donc j'en profite pour le raconter quand même, parce que c'est important.
Ouais.
Renaud Ruhlmann, il est venu avec une aloe vera, donc, sur laquelle il a branché des électrodes. Il pratique beaucoup la musique ensemble, je sais pas comment dire, voilà. Et l'aloe vera, en fait, il mettait des notes, et je suis venue près d'elle, et j'ai chanté quelques notes.
À l'aloe vera.
Et ces notes ont été reprises par l'aloe vera, je crois, ou alors c'est un hasard, mais les notes que j'ai produites ont été semblables à celles que l'aloe vera a produites après. Donc là, on parle d'une aloe vera qui a l'habitude de la musique, qui a l'habitude peut-être de recevoir des vibrations, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé.
Ou peut-être d'échanger.
D'échanger aussi. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, si vous voulez. En tout cas, Renaud n'était pas du tout étonné. Il fait, bah oui, évidemment. Mais ça a été pour moi une épiphanie, dans le sens maintenant, quand je me promène n'importe où, je me dis, mais en fait, elles écoutent peut-être ce qui se passe autour d'elles, elles émettent des choses. Quelle musique elles feraient? Enfin, ça m'a ouvert, moi. J'étais très, très, très émue, en fait, à ce moment-là.
Je comprends, mais vous avez chanté, c'était quoi les notes que vous... C'était tout bête? C'était trois notes?
Oui, c'était... J'ai dû faire... Je peux vous... J'ai dû faire... Oh! Je suis désolée, j'ai la voix éraillée. Mais un truc comme ça, quatre notes.
Ouais.
Un truc très simple qu'elle a repris. Enfin, qui m'a semblé qu'elle avait repris, en tout cas. Dans le doute, j'y crois.
Mais c'est formidable. Ça veut dire qu'on se promène dans la rue et que peut-être les arbres nous parlent.
Oui, qui nous reçoivent aussi. Qui nous reçoivent et qui émettent. Ouais. Je ne sais pas s'ils nous parlent, mais ils reçoivent, ils émettent. Ils savent. Ouais, en tout cas, moi, ça m'a transformé mon rapport. Ça m'a ouvert aux végétaux, ce moment-là. Physiquement.
Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Bon, Laetitia Doche, vous êtes une auditrice de l'émission, donc vous savez oui. Ce qui vous attend.
Oui.
Ah, on a beaucoup hésité. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous connaissez déjà quelques-uns des tubes de l'année 86. Mm-hmm. Il se trouve qu'il y avait aussi à la radio L'amour à la plage.
Oh, j'adore Niagara.
Voilà. En rouge et noir.
Ah oui, Jeanne Masse.
Et il y avait aussi, vous vous rappelez, Sabine Paturel.
Ah, bien sûr, j'ai tout mangé le chocolat.
J'ai tout fumé les Craven, ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux, j'ai tout découpé tes rideaux, tout déchiré tes belles photos que tu gâchais dans ton bureau. Fallait pas me quitter.
Pokémon, quoi.
Pokémon, sa voix.
On disait que...
Un peu la voix de Pokémon.
Voilà.
Hein. Sabine Paturel, c'est vrai qu'on voit bien un gros poté Pokémon. Enfin, qui dit
tout marié.
Mais pardon, c'est pas du tout une critique.
Non, c'est pas une critique. On avait oublié le son.
Oui, c'est vrai.
On est un peu déçus.
Je sais pas si elle nous écoute. Non, non.
Laetitia Doche, j'aimerais qu'on parle un peu de votre actualité maintenant.
Très bien.
Je vois que vous êtes très sérieuse et oui, depuis oui. le 11 août, vous êtes à l'affiche donc du dernier film de Daniel Arbide.
Oui.
Une passion simple, passion simple.
Passion simple.
Passion simple, inspirée du roman de Annie Ernaux. Vous y jouez le rôle principal.
Ouais, le rôle d'Annie Ernaux finalement. Vous... Ou le rôle de Daniel Arbide, je sais pas, ou le mien. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est tout le monde mélangé quand il est amoureux, je crois.
Et quand il vit une passion.
Quand il vit une passion, exactement.
Bon, vous êtes vraiment magnifique dans ce film. Vous êtes très bien filmée aussi.
Oui, c'est vrai.
Vraiment.
Dans ce sens, je suis très bien filmée. J'ai pas dit que j'étais magnifique.
Non, mais vous êtes très bien filmée, si vous préférez. Et on vous voit, en fait, on voit une femme qui traverse un peu en somnambule.
Ouais, sa vie.
Sa vie.
Depuis qu'elle est tombée amoureuse.
De ce drôle de mec. Russe.
Ce russe.
Ce russe.
À partir du mois de septembre de l'année dernière, je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme qui me téléphone, qui vienne chez moi. Je travaillais, j'allais au cinéma, au supermarché, je lisais. Et tout ce que je faisais, c'était comme déconnecté de la réalité. D'ailleurs, un souvenir très vague de ma vie, à ce moment-là, des gens que je voyais... Sans qu'il le sache, cet homme, il m'a relié davantage au monde. Et rythmé ma vie, j'ai mesuré le temps en fonction de lui. J'essayais devant les autres d'être normale, de ne rien laisser transparaître. Mais quand j'étais entourée de femmes, par exemple à la caisse d'un supermarché ou à la banque, je me demandais si elles avaient, comme moi, un homme sans arrêt dans la tête. Ou alors, sinon, comment est-ce qu'elle faisait pour vivre ?
Laetitia Doche, vous dites que c'est un de vos plus beaux rôles, ce rôle-là. C'est vous qu'on vient d'entendre. Vous allez chez le médecin, vous demandez des somnifères, vous demandez des médicaments et vous parlez. Dans la scène qu'on vient d'entendre.
C'est un film sur le désir.
Ouais.
Le désir fort qui vous prend le ventre, quoi.
Ouais.
Donc, il y a des scènes d'amour, beaucoup de scènes d'amour qui sont toutes différentes, qui racontent les étapes un peu des relations à l'autre. Puis il y a toute l'attente, la solitude qui devient maladive aussi.
Mmh. Le vide.
Le vide, c'est drôle parce que vous avez laissé vachement de silence dans les extraits que vous avez passés. Ça m'a sauté aux yeux. Ouais, il y a vachement de vide. Et après, la fête du slip quand l'homme est là. Et évidemment, c'est super intéressant. Enfin, ça passe par... Moi, je suis tombée très amoureuse. Cette histoire, on l'a toutes un peu... Tous et toutes, d'ailleurs, un peu vécue. Une histoire qu'on garde comme un secret, comme une marque. C'est cette histoire-là, avec sa beauté, sa vie et sa douleur et le trouble surtout que ça met. On voit tout comme à travers un voile. Tout plus rien nous intéresse, c'est une drogue aussi. C'est tout ça. Et moi, je pense qu'il faut vivre tout ça, surtout après un bon confinement. Je le souhaite un petit peu à tout le monde et puis on s'en remet. Mais surtout, c'est très intéressant. Et puis c'est féminin. Enfin, dans le sens, on parle des hommes, mais c'est pas féministe. Mais ça parle quand même de quelque chose qui nous a été aussi... Ça parle du prince charmant, peut-être aussi, un petit peu.
Peut-être. Drôle de prince charmant, mais ça parle, ça
avec
pourrait...
Avec des tatouages, bah, sexy,
ouais.
quoi.
Ouais,
avec
sexy.
Des tatouages, qui prend les choses en main au lit. Voilà, prince charmant, voilà.
Vous avez rencontré...
Sur la table de la cuisine, le prince charmant.
Et russe, et russe.
Et russe, ouais.
Vous avez rencontré Annie Ernaux ?
Oui, j'ai eu cette chance.
Elle vous a dit comment elle aimerait
J'ai l'impression qu'elle a fait grande confiance à Daniel Arbide. Elle lui a dit, vous faites tout ce que vous voulez. En fait, il y a une certaine distance, je pense, qu'il faut garder parce que je ne suis pas elle.
Non, bien sûr.
Et elle n'est pas moi. Donc, je pense que quand on s'est vu beaucoup pour des entretiens dans les journaux. Il y avait une distance qui était, voilà, vous n'êtes pas moi. Et après, c'était génial de la voir vivre et de... En fait, j'étais beaucoup inspirée par son honnêteté et sa précision. Et j'essayais d'être pareil au jeu.
Bah, c'est réussi.
Ah, merci.
Je vous propose qu'on l'écoute, Annie Ernaux.
Ouais, super.
Quand vous parliez de tout et de rien, mais pas de l'essentiel.
Non, je crois que l'essentiel, on le faisait. Vous savez, le désir, c'est quand même la chose la plus importante.
Tout ce qui touche le sexe, vous le dites avec des mots crus.
Oui.
Il faut un certain courage, quand même, pour dire certaines choses.
Mais je crois que... Non, c'est pas du courage pour moi. Ce sont les mots que j'emploie. Et puis, vous voulez dire l'écrire, l'acte du courage. Moi, je n'aime pas qu'on dise les choses avec des métaphores. Il n'y a pas de métaphores dans mes livres. Pourquoi y aurait-il des métaphores du sexe? Écrire, pour moi, c'est atteindre vraiment la chose. Et donc, si je pense au sperme, j'écris sperme. Voilà.
C'était Annie Ernaux.
C'est ça que j'aime bien chez elle.
Bah ouais.
Elle est très élégante, elle dit sperme. Et vous savez, quand j'étais chez elle, elle m'a montré des extraits de coupures de l'époque. Et il y avait une femme ose parler de... ose dire que, je crois que c'était ça. Donc ça a quelque chose de... Vous voyez, c'est comme... Pourquoi ça nous a été enlevé de pouvoir être cru? On n'a pas le droit, nous. Et je trouve ça fort. Elle est forte, cette femme.
Elle est forte et ce livre a fait polémique, justement.
Oui, elle est forte naturellement. C'est-à-dire, comme elle dit, elle ne va pas essayer de provoquer. Non. Juste, bah oui, elle dit sperme. Parce que nous aussi, on peut parler des mots comme ça. On peut dire sperme.
Bien sûr.
Pardon, je peux me le dire 15 fois de suite.
Mais le film cherche beau, ça aussi.
Ouais.
Pas de métaphore.
La beauté crue, quoi.
Et atteindre la chose, comme elle dit.
Ouais, atteindre la chose, atteindre. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre deux personnes qui font l'amour à différents moments? Les rapports de pouvoir, de complicité, ça change. C'est beau, je trouve. C'est un très beau film, moi j'adore. Franchement, j'aimerais le voir. J'aime pas trop voir à l'écran, mais je trouve que c'est un film magnifique.
Vous l'avez pas vu?
Si, j'ai vu, mais de loin, et voilà.
Non, je comprends.
C'est con, hein, c'est débile.
Pourquoi vous avez peur de vous voir?
Mais dans ce cas-là, il faut faire des mauvais films. Comme ça, on va voir les... Non, non. C'est un très beau film. Je suis très fière, moi.
Merci Laetitia Dos.
Bah, merci à vous.
Merci d'avoir passé cette fin d'après-midi avec nous.
Oui. Et il fait chaud aujourd'hui.
Il fait bon.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, j'étais très heureuse d'être avec vous. Et bravo pour votre travail d'archives, c'est très beau.
Bah merci beaucoup. À partir de dimanche prochain et jusqu'au 29 août, Laetitia Doche, vous serez au Festival Agir pour le Vivant.
Oui, je vais y passer, oui, sûrement.
Avec
plaisir, voilà. J'adore cet endroit.
Vous y étiez l'année dernière déjà.
Ouais.
Ouais. Et c'est quoi? Des scientifiques, des artistes, des militants qui réfléchissent ensemble, qui prennent le temps de repenser notre place parmi les vivants.
Oui,
c'est ça.
Il y a beaucoup de conférences, des gens qui parlent entre eux, c'est super intéressant. J'ai beaucoup appris, moi, là-bas.
C'est vrai?
Ouais.
Donc allez-y, c'est à Arles, ça dure une semaine. Laetitia y sera. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combe, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka, à la technique Djoubaka. Aujourd'hui. Oui, Djoubaka, c'était Marie le peintre. On se retrouve dimanche prochain à 16h. Faites attention, c'est l'horaire d'été d'une journée particulière. À partir de maintenant, c'est 16h. Bonne fin de week-end. Et surtout, n'oubliez pas de podcaster l'émission si vous n'êtes pas là à 16h.